pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un fait scientifique qui est malheureusement passé inaperçu ou presque. Selon une douzaine de chercheurs européens, la pollution chimique a franchi un seuil dangereux pour la stabilité des écosystèmes à l'échelle de la planète. Ils ont évalué les impacts des plastiques, des pesticides, des solvants, des polluants organiques persistants et de nombreuses autres substances que nous avons introduites dans l'environnement avec nos différentes activités. Ils ont estimé le rythme auquel ces substances sont produites et celui auquel elles se dispersent. Et leur conclusion est sans appel. Nous sommes en train de faire basculer irréversiblement les équilibres naturels de notre planète. Les auteurs de cet article, publié dans la sérieuse revue Environmental Science and Technology, appellent à des mesures urgentes pour répondre à cette pollution multiforme et l'endiguer. Mais comme vous allez l'entendre dans cette émission, il n'est pas toujours simple de réparer nos erreurs. Déchets dangereux, comment s'en débarrasser? Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jackie Bonnemain.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs de l'association Robin des Bois qui se mobilise depuis près de 40 ans contre la pollution, alors qu'elle soit banale comme un dépôt sauvage de déchets ménagers ou à plus grande échelle sur des sites pollués d'anciennes activités industrielles. Alors comment réagissez-vous au fait que nous ayons atteint un tel degré de pollution de notre environnement que nous mettons en péril l'ensemble des équilibres naturels ?
Je ne réagis pas par la surprise, parce que dès 1985, quand on a créé Robin des Bois, et même avant, quand certains d'entre nous travaillaient chez Greenpeace, avions prédit cette invasion de substances toxiques persistantes dans l'environnement, dont la création, la mise en œuvre a été justement favorisée par certains milieux scientifiques relayés par des industriels transnationaux. On n'est pas surpris. Par contre, on est évidemment très inquiet parce que nos anticipations datant d'une quarantaine d'années, voire plus, hein, pour des pionniers, encore plus pionniers que nous, se confirment. Et ce qui nous inquiète, c'est que en matière d'énergie, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'énergie miracle, il n'y avait pas d'idée miracle. Les baleines ne se sont pas remises de la chasse industrielle pour leur huile, qui a éclairé une partie du monde à partir du XVIIe siècle. Ensuite, on a eu le miracle du pétrole, du gaz, du charbon, bien sûr, du nucléaire. Maintenant, on va avoir le miracle du lithium. Et le lithium créera aussi beaucoup de problèmes, comme toutes les sources d'énergie précédentes. Et donc, c'est un peu un éternel recommencement. Et avec les industriels, le problème, c'est qu'ils tournent les pages assez vite, avec des grands élans lyriques, et ils laissent les baleines dans un état précaire, 4 siècles après le massacre, les puits de pétrole, les raffineries, les pompes à essence, les lagunes d'hydrocarbures, les résidus de marée noire, ça n'existe plus. On tourne la page et on oublie tout l'héritage toxique. Le problème, c'est l'héritage.
Alors, vous parliez de l'énergie, mais globalement, quelles sont les activités les plus polluantes ?
L'après-mine, c'est-à-dire l'évolution des terrains recouverts de stériles de mines après la fermeture, bien entendu, des mines qui ont extrait du plomb, du zinc, de l'uranium, de l'or, de l'argent. Eh bien, tous ces stériles de mines constituent dans toutes les régions françaises, mais en particulier dans le sud, dans l'Hérault, par exemple, et dans le massif alpin, des montagnes de déchets polluants à ciel ouvert, qui sont susceptibles au fil des événements météorologiques, des orages, des pluies, de raviner, d'aller polluer les rivières en contrebas, qui sont susceptibles aussi de rompre les digues qui ont été construites à la fermeture des mines. Les mines de charbon ont créé des centaines de kilomètres de galeries dans les sous-sols. Ces galeries s'affaissent et donc ça crée des mouvements de surface en terrain, ça disloque des villages. Bref, l'après-mine nous paraît être un enjeu majeur, comme le sera l'après-lithium dans une centaine d'années. Et il y a un autre sujet important d'inquiétude qui triture les sols, qui pollue l'environnement. Après l'après-mine, c'est l'après-guerre. Et en France, par exemple, qui a souffert quand même de trois guerres en 70, on trouve encore des vestiges de la guerre de 1870, mais surtout les guerres mondiales de 14-18 et 39-45, il y a de nombreuses forêts, de nombreux sites qui restent pollués un siècle après la première guerre mondiale par des vestiges de guerre. Je me souviens, on se souvient tous ici chez Robin des Bois d'une clairière au nord de Verdun où il y avait un site de neutralisation de munitions à gaz, pleine de gaz de combat. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'un siècle après, on est dans une clairière, il n'y a rien qui pousse, la végétation refuse, ne peut pas recoloniser ce site pollué. En dessous, puisque évidemment ça traîne à ciel ouvert depuis un siècle, les polluants se sont enfoncés dans les sous-sols. Maintenant, il y a à peu près 300-400 tonnes de terre polluée à l'arsenic. Mais on n'a pas d'argent. Là, il n'y a pas de coûte que coûte qui tienne. On n'a pas d'argent. On va simplement faire un tumulus de ces terres et les encapsuler et les laisser sur place, alors qu'il faudrait en fait les excaver et trouver un exutoire fiable à l'abri des intempéries. L'après-guerre, l'après-mine. Et puis le contemporain, évidemment, le moderne, toutes ces substances chimiques dont on continue à être abreuvé, qui nous sont soi-disant indispensables, comme les bromés, qui sont des retardateurs de feu qu'on retrouve partout, dans les coques des ordinateurs, dans les canapés, qui sont des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve maintenant dans les graisses des orques en Arctique, les PCB, plus connus que les bromés, qui ont été utilisés comme stabilisateurs, comme réducteurs de risque d'incendie dans les équipements électriques. Et puis, il y a une famille aussi qui est peu connue, mais qui est très vivace, dont on dit qu'elle est éternelle. C'est les perfluorés qui sont aussi utilisés partout comme anti-adhésifs, en particulier dans certains ustensiles de cuisine, mais aussi dans des vêtements de sport d'hiver et dans les emballages alimentaires qui, eux aussi, migrent de leurs premières utilisations, de leurs premiers vecteurs vers et des usines de production vers l'environnement, vers les rivières, les poissons et puis aussi les organismes humains. Voilà un panorama des risques sur le long terme, qui n'est pas exhaustif, bien sûr, qui est un peu intuitif.
Oui, mais qui est déjà suffisamment vaste pour nous inquiéter. Est-ce que vous décriviez à l'échelle de la France existe à l'échelle du monde. Et d'ailleurs, récemment, la ministre de l'Environnement ukrainienne alertait aussi sur l'impact de la guerre qui se déroule actuellement dans ce pays sur l'environnement du pays. Et la gestion de cette pollution est souvent un vrai casse-tête. Dans l'est de la France, par exemple, en Alsace, à Vittelheim, l'histoire de Stocamine a généré une centaine de rapports et d'expertises et fait transpirer une douzaine de ministres de l'Environnement. Enfin, pas assez apparemment, puisque ce n'est toujours pas résolu. Stocamine, c'est une ancienne une mine de potasse qui est située à 550 mètres sous terre et qui abrite dans ses galeries 42 000 tonnes de déchets dangereux. Ce stockage menace à long terme la nappe phréatique d'Alsace, la plus grande d'Europe, qui alimente en eau potable environ 7 millions de personnes en France et en Allemagne. C'est enfin une bataille politique et juridique avec une avalanche de recours devant les tribunaux entre les partisans de l'enfouissement définitif, l'État, et ceux qui veulent déstocker, qui sont les associations environnementales et les collectivités locales. Dernier soubresaut, le 25 mai dernier, le tribunal administratif de Strasbourg a fait suspendre les travaux de confinement dans le centre de la mine qui avait commencé. Angélique Ferrat s'est rendue sur place.
Alors bonjour tout le monde. On est en direct de Wittelsheim sur le site Seveso Stockamine. Et donc là on a pénétré dans le site de Stockamine. L'équipe se mobilise sur place.
Fin mai, l'association Extinction Rébellion pénètre sur le site de Stockamine pendant quelques heures et fait la une des médias. Le tout est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. À coups de graffitis et de banderoles, ces jeunes militants écologistes dénoncent le danger que représentent ces 42 000 tonnes de déchets enfouis dans le sous-sol alsacien. Pousse, c'est un pseudonyme, vient de Toulouse. Elle estime que la désobéissance civile est de mise dans ce dossier.
Là à gauche, et vous verrez la rue.
L'idée, c'était vraiment de se rendre sur site pour appuyer la décision de justice qui a été rendue concernant l'arrêt des travaux, mais qui ne sont pas en fait l'arrêt du stockage, c'est juste l'arrêt des travaux d'enfouissement. Et nous, ce qu'on veut, c'est le déstockage et le fait de sortir les déchets et de les traiter plutôt que de les laisser et de les laisser pourrir la nappe phréatique qui est au-dessus, quoi. Je pense que l'aspect de déni, un peu, on va enfouir, on ne verra pas, est très dangereux parce que du coup, là, ça pollue. L'eau potable de 7 millions de personnes, ça remet en question en fait la pertinence de l'État qui est censé nous protéger. Est-ce que vraiment il nous protège en enfouissant des déchets sous notre eau potable ? L'idée, c'est qu'on agisse directement pour montrer le désaccord de la population, mais surtout la détresse de la population, parce qu'en fait on est obligé d'en aller à de la désobéissance civile, on est obligé d'aller bloquer des sites, mais je le fais parce que c'est une question, comme j'ai dit, de santé publique et de protection du vivant.
En 20 ans, la commune de Wittelsheim a connu bon nombre de manifestations anti-stockamine. Le stockage a commencé en 1999, il a été stoppé en 2002 après un incendie. Seuls de l'amiante et des bouts d'usines d'incinération étaient officiellement stockés dans le sous-sol, mais celles-ci normalement ne brûlent pas. Un doute s'installe alors sur ce qui a été réellement entreposé. Un premier déstockage a lieu en 2005, on remonte uniquement les sacs de mercure et d'arsenic. Restent toujours 42 000 tonnes de déchets ultimes. Yann Flory, porte-parole du collectif Déstockamine.
Admettons qu'on ne puisse pas tout sortir, ce qui est possible, hein. Moi je ne suis pas mineur, mais on sort tout ce qui est possible de sortir et on commence tout de suite. Et là je suis persuadé qu'on peut sortir, c'est ce qu'on a dit depuis le début, depuis 2002, on le dit, commençons à sortir, on sort. Figurez-vous que lorsque l'entreprise allemande a commencé à déstocker, pour un Big Bag qui était sorti et remonté, il fallait en déplacer 5, c'est débile, alors qu'on les avait déplacés et on aurait pu les monter. Voilà comment les MDPA et comment l'État gère ce dossier. Donc oui, on commence par sortir tout ce qui est possible de faire maintenant. Et ça, s'il y a négociation possible, je pense que le gouvernement devrait nous entendre. On négocie sur ce projet-là, on sort tout ce qui est possible de sortir.
Les mines de potasse ont fait vivre ce territoire situé entre les Vosges et le Rhin pendant 100 ans. Quand l'État annonce la fermeture du site, il faut à tout prix trouver une solution de remplacement. L'idée d'utiliser les galeries pour stocker des déchets industriels non recyclables fait alors l'unanimité. L'emploi est sauvé, c'est le plus important. Jean-Pierre Hecht est ancien mineur. Il a travaillé dans les mines de potasse jusqu'en 1999, puis pour Stockamine. Il nous amène dans le musée du carreau Joseph Hels. On entre là dans le musée de Joseph Hels, du carreau Joseph Hels.
Oui, tout à fait. Et c'est non sans émotion pour moi, puisque c'est ici que mon grand-père, immigré polonais, a commencé sa carrière aux mines.
Ah oui, signaux.
Ça, c'était quoi ?
Ouais. C'était les signaux, pour le code des signaux pour les ascenseurs.
1, 2, c'est roule. Un coup, c'est arrête. Après, il y avait des trucs comiques, comme par exemple, si je me souviens bien, c'est remonte du personnel, c'est... Voilà, ça, c'est la remonte du signaleur. Commande du signaleur, ça veut dire qu'il n'y a plus personne au fond de la mine. Je suis le dernier à remonter et puis voilà.
Ça, c'est ce qu'on trouve en bas. Alors, ce qui est rouge, c'est de la potasse, c'est le reste, non, ou c'est l'inverse ?
Ce qui est rouge, rouge foncé, rouge clair, c'est de la potasse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle du sel gemme, du sel de cuisine. Et les fameuses strates, ce sont des insolubles, ce sont les argiles qui s'entassent.
Mais alors justement, cette différence de couleur, ça montre qu'il y a différents composants dans la géologie. Et c'est ce qui expliquerait que ce n'est pas si solide que ça en dessous.
C'est pas un sel qui est homogène, il est parcouru notamment de ces fameux schistes aussi, et ce qui fait que ça diminue mécaniquement la résistance de la roche.
Alors on va continuer. Vous avez travaillé pour Stocamine, oui. Et vous avez stocké des déchets.
Ben oui, je me souviens de l'arrivée du premier camion, le 2 février 1999, où on était fiers d'avoir contribué à la mise en place d'un nouvel outil de travail. Parallèlement, bien sûr, on continuait la carrière de mineur, c'était important aussi pour nous. Le projet avait été si bien présenté, avec tellement de convictions, tellement de garanties, qu'on ne se posait pas la question. Là où les questions ont commencé à se poser, avec l'arrivée du nouvel actionnaire, hein, qui était Séché Environnement, on s'est aperçu que le marché de déchets de classe zéro était entre 5 000 et 7 000 tonnes annuelles, alors que les prévisions d'exploitation prévoyaient 40 000 tonnes par an. Comptablement parlant, au bout de la deuxième année, on s'est déjà aperçu qu'il y avait un problème. Et quand il y a un loup, c'est que c'est flou, hein, comme on dit. Donc voilà, donc on est allé ensuite, ben, je parlais du rêve au cauchemar, mais on allait de déception en déception.
Aujourd'hui, plus aucun son ne sort de la mine. Seul le système d'aération ronronne toujours. Quelques mineurs étrangers assurent l'entretien des galeries. La centrale de production de béton a été arrêtée. Les travaux qui avaient commencé mi-mai ont été stoppés.
Oui, Céline Schump, bonjour.
Céline Schump, directrice des mines de potasse d'Alsace, qui gère le site, ne décolère pas. Pour elle, il y a urgence à bétonner les galeries. Oh.
L'exploitant MDPA n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'urgence, puisque aujourd'hui on a quand même la mine qui se referme et qui rend les travaux de plus en plus difficiles. Et on nous a arrêtés en pleine construction des deux premiers barrages. Nous, on fait faire des expertises pour voir s'il ne va pas falloir les démolir pour les reconstruire. On est dans des installations minières qui ont plus d'un siècle. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du site, hein, c'est que les galeries se referment et que le sel enferre les déchets. C'est un sarcophage autour des déchets. S'il y a du sel, c'est qu'il n'y a pas d'eau.
Cette hypothèse du sel qui fait un sarcophage autour des déchets et rend toute pollution impossible ne s'est pas vérifiée dans la mine allemande de Hasse. Et François de Rugy, quand il était ministre français de l'Environnement, a scandalisé les Alsaciens en parlant de pollution acceptable de la nappe phréatique du Rhin si jamais l'eau et les déchets se mélangeaient. On retrouve Céline Schaum.
Le risque maximum, il a été établi par les différentes expertises, c'est maximum si toutes les mesures de précaution qui ont été retenues ne s'avèrent pas efficaces, le risque maximum c'est 0,7 mètres cubes, soit un panache sur au maximum 107 mètres au droit des deux puits de mine Amélie, dans la couche inférieure de la nappe qui n'est pas utilisée en eau potable.
Et c'est quand même une pollution possible.
C'est le risque maximum, 0,7 mètres cubes et donc un panache sur 100 mètres.
Voilà, vous avez bien fait de
Ces dernières années, un bras de fer s'est engagé entre l'État et les Alsaciens. La collectivité européenne d'Alsace, l'équivalent alsacien du département, et les associations environnementales multiplient les recours devant la justice pour empêcher un confinement définitif. 42 000 tonnes de fûts sont toujours à 550 mètres sous terre, dans des fûts qui s'abîment, des gros sacs plastiques qui craquent, et c'est expert contre expert, décision de justice contre décision de justice. Stéphane Giraud, directeur de l'association Alsace Nature.
Ce qui est dénonçable dans ce dossier, c'est l'aveuglement de l'État depuis le début de cette histoire de Stocamine. Rappelons que les structures associatives avaient d'ores et déjà à l'époque dit que c'était hyper dangereux et qu'il fallait surtout pas autoriser ce stockage. On nous a ri au nez, on nous a fait voir quelques grands experts qui nous ont expliqué que jamais de la vie ça s'effondrait, que tout ça tiendrait magnifiquement bien. qu'on maîtrisait la réversibilité totalement, qu'on saurait au moindre gramme près ce qui était stocké là en dessous. Bon voilà, l'histoire nous a montré tout l'inverse. L'incendie, personne ne savait ce qui brûlait. On voit bien que dans les stocks de déchets, il y a des choses qui ne devraient pas y être. Et puis surtout, l'État aujourd'hui dit que la réversibilité n'est plus possible. Donc je crois que c'est surtout l'image de l'État et la confiance que peut avoir le citoyen dans la parole de l'État qui est en jeu dans ce dossier. Ce qu'il faut, c'est effectivement se reposer autour d'une table, réfléchir sur le long terme et pas sur le court terme, simplement en disant ça va coûter cher ou on ne sait pas faire. Mettre des produits qui vont se diluer dans la nappe phréatique d'ici un temps, peu importe lequel, indéterminé, mais dont tout le monde est d'accord que ce temps-là arrivera à un moment, n'est absolument pas raisonnable aujourd'hui pour les générations futures. Voilà.
Quelques 50 km de l'autre côté de la frontière, en Suisse, l'ambiance est tout autre, à Bonfol, on a achevé l'assainissement de la décharge chimique. Ce jour-là, la BCI, la société qui représente toute la chimie bâloise dans ce dossier, remet à la commune deux réservoirs d'eau de la décharge qui ont été transformés en étangs pour préserver les batraciens. La renaturation fait partie du projet d'assainissement décidé en 2000. Fernand Gasser, le maire de Bonfol, se félicite du travail accompli depuis 10 ans dans une ambiance, dit-il, de coopération.
C'est un ouf de soulagement, mais c'est 60 ans d'histoire de la commune. C'est vrai qu'à Bonfol, il y a eu une mauvaise image un certain temps associée à cette décharge. On traitait le village poubelle, voilà, on a été dénigré longtemps.
Vous avez apprécié qu'on vous écoute ? Les habitants avaient une crainte aussi qu'on ouvre cette décharge ?
Alors oui, on avait une crainte, mais j'entends, vu les séances qu'on a faites avec toutes les instances, avec toutes les garanties qu'on nous donnait, c'était plus facile pour nous d'accepter. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des experts. Quand on nous dit qu'il faut traiter des déchets comme ça, eh ben, ok, on vous fait confiance, allez-y, mais on veut certaines garanties derrière. Et c'est cette collaboration entre les trois services avec BCI, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est quand même eux qui ont payé.
La chimie bâloise.
Voilà, hein. Qui a fait qu'on a réussi à faire quelque chose de bien à la satisfaction de tout le monde.
Il y avait une peur de pollution de l'air, notamment. Parce que, alors, avant, c'était le problème de la pollution de l'eau. Et après, on ouvre la décharge, c'est bien. Mais si jamais on respire des trucs pas terribles...
Alors, c'est clair qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. On a toujours entendu parler de produits volatiles. C'est vrai que c'était une crainte. Mais après, justement, avec le concept qui a été mis en place, la halle d'excavation couverte en dépression, on était rassurés.
Pendant plusieurs décennies, les entreprises chimiques et pharmaceutiques de Bâle, donc Roche, Ciba, Novartis, ont utilisé une ancienne carrière d'extraction de l'argile pour y jeter 150 000 tonnes de fûts, de désherbants, de déchets de laboratoire, de solvants et autres produits chimiques. Quand le principe du pollueur-payeur a été établi dans le droit fédéral suisse, Pierre Koller, alors ministre de l'Environnement du canton du Jura, demande l'assainissement de cette décharge. Et comme souvent dans ce genre de dossier, la chimie bâloise a répondu « trop cher, impossible techniquement, trop dangereux ».
La chimie bâloise prétendait que techniquement ce n'était pas possible et en fait qu'elle ne souhaitait pas le faire parce que ça allait aussi coûter des sommes considérables. Mais le principal argument c'était de dire « c'est impossible ». Et donc moi j'ai fait appel à un certain nombre d'experts en disant « maintenant, trouvez-moi les solutions ». Et les solutions ont été trouvées. Et lorsque nous avons exigé de la chimie bâloise d'assainissement, on nous a répondu « c'est pas possible ». Et c'est là que nous avons sorti les expertises en disant « si c'est possible, voilà ce qu'il faut faire ».
Le bras de fer a duré presque 2 ans, puis il a fallu 10 ans d'études et 10 ans d'assainissement pour que ce coin de forêt redevienne sain. Le tout a coûté 350 millions d'euros. Michael Fischer, directeur de la BCI, la société créée par la chimie bâloise, pour gérer cet assainissement. Donc là, on longe la voie ferrée qui amenait à la décharge.
Alors, et pour l'assainissement lui-même, on a reprolongé la voie ferroviaire jusqu'au site.
Pour pouvoir évacuer.
Pour pouvoir évacuer, oui.
Ce mur, c'était le mur de soutènement de cette grande halle de déconfinement.
Oui, vous aviez des arcs de 40 mètres de haut, 150 mètres de portée. L'assainissement lui-même est très rudimentaire, hein, donc c'est d'excaver les déchets, et puis de les mettre dans des containers étanches et de les transporter en Allemagne pour être incinérés dans des fours pour déchets spéciaux. Par contre, au niveau sécurité de l'environnement et des travailleurs, c'était extrêmement complexe. Mais après 3 mois de travaux, on a eu une explosion très violente. Heureusement qu'on avait des protections. Donc la paroi de l'excavatrice était protégée par un verre blindé. Donc ça a sauvé la vie du travailleur. Une fois que cette explosion s'est produite, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus mettre les travailleurs en contact avec ces déchets. Donc toute l'excavation des déchets a dû être effectuée à distance. On avait des pelles mécaniques de 30 tonnes qui étaient télécommandées depuis une salle qu'on peut peut-être deviner encore dans le haut du mur. Donc le centre de pilotage était là-haut.
L'un des problèmes, c'était aussi que tout était mélangé. Je me souviens de films où on voyait les camions arriver et baigner littéralement les fûts et les sacs comme ça à tout va.
Il y a des sites contaminés où on fait un triage de façon à optimiser les coûts. Mais avec ce risque d'explosion, on n'aurait pas pu faire de triage parce qu'à ce moment-là, il faut que le travailleur soit proche des déchets pour arriver à trier et ça, on ne pouvait pas se le permettre.
Mais on entend toujours un peu les mêmes arguments. C'est trop cher, c'est dangereux.
Il y a eu un changement de législation en Suisse qui dit qu'un assainissement doit permettre d'éviter après une génération des mesures actives. Et ici, avec le système, le premier confinement qui avait été mis en place, on devait pendant une centaine d'années, même plus, continuer de surveiller cette décharge et traiter les eaux qui en venaient. Maintenant, la chimie baloise était consciente que c'était problématique, que de surveiller, de continuer pendant une centaine d'années à exploiter cette décharge, ça reviendrait aussi cher que de l'assainir définitivement. Donc il y avait toute une série de contraintes qui ont fait que finalement, en 2000, la chimie baloise a accepté d'assainir.
À Zurich, plus à l'est en Suisse, Marcus Buser, géologue et professeur à l'université, connaît bien les décharges de Bonfol et de Stockamine. Il a fait partie d'un collectif d'experts sur l'ancienne mine de potasse. Il était le seul avec un autre collègue suisse à ne pas être d'accord avec l'idée du confinement définitif. Le seul aussi à bien connaître les mines de sel allemandes utilisées pour du stockage et le seul à avoir une expérience technique de ce déstockage.
Les experts, par exemple, dans le comité de pilotage, étaient déjà lors de la planification du projet. Ça ne va pas. C'est un des grands problèmes, pas seulement en France, mais disons dans toutes les expertises qu'on mandante des gens qui ont des intérêts dans les administrations ou dans l'État. À l'époque, en 2000, les experts, nous étions pratiquement tous favorables au stockage profond géologique.
Là, on est à 500 mètres, c'est ça ?
550 mètres à Stockamine, mais il y a toute une série de projets qui, à partir de ce moment-là, Stockamine était le premier en 2002, ont commencé à mal marcher. Donc, principalement, les deux mines de déchets de faible et moyenne activité radioactifs en Allemagne, Morsleben en Allemagne de l'Est, puis Asse en Allemagne de l'Ouest, et puis un peu plus tard aussi le WIP, le Waste Isolation Pilot Plant aux États-Unis. Donc on a senti que tous les grands projets poursuivis jusqu'ici, où on avait donné des assurances de sécurité, ne fonctionnaient pas. Et je suis arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure d'assurer la sûreté long terme d'un dépôt de déchets dangereux en sous-sol. Tous les experts du comité de pilotage qui a travaillé entre 2010 et 2011 ont été d'accord sur le fait qu'il y aura des rentrées d'eau dans le dépôt de déchets à Stockamine. Donc, une fois qu'on est d'accord, on doit se demander si c'est effectivement la bonne stratégie de mettre des déchets et de les laisser en sous-sol pour les générations futures. Il ne faut pas l'oublier.
Les Allemands ont le même problème qu'à Stockamine, à Asse, c'est ça ? Alors, eux, ils déstockent, les Allemands, actuellement ?
Ils sont en train de préparer le déstockage. Eux, le problème, c'est un autre. Les galeries sont vraiment dans un état complètement délabré. Et surtout, les déchets radioactifs émettent des radiations. Les déchets chimiques sont relativement, de ce côté-là, sont relativement faciles à travailler.
Marcus Buzer s'énerve en tout cas de ce qu'il appelle l'entêtement de l'État français. L'État qui s'est porté caution pour les mines de potasse d'Alsace à hauteur de 160 millions d'euros afin de permettre le lancement des travaux de bétonnage des galeries. Et dès que les opposants ont demandé un déstockage total, l'État a répondu « c'est impossible, c'est trop dangereux ».
Dans un centre de stockage profond, vous devez assurer que l'eau ne puisse pas rentrer. Alors que dans une mine, on s'en fout de l'eau parce que vous pouvez ensuite la pomper. Donc la roche a été endommagée. Et cette roche endommagée, elle permet aux infiltrations d'avancer en profondeur. Et c'est à cause de ça que, disons, si vous voulez faire un stockage en profondeur, tel que par exemple pour les déchets radioactifs, on doit assurer que la zone endommagée par le creusement est sous contrôle. Et dans le cas des mines de sel, ce n'est pas possible de garantir ceci.
Donc est-ce qu'il y a encore des projets du même ordre ou ces deux projets qui ne fonctionnent pas ont signé la fin de ce genre de projet?
Alors malheureusement non, parce qu'en Allemagne, il y a toute une série de mines, d'anciennes mines, qui sont utilisées comme centre de stockage. Alors, il y a une bonne douzaine de mines qui servent aujourd'hui à recueillir tous les déchets d'Europe. Il faut s'imaginer que des millions et des millions de tonnes de déchets spéciaux, depuis la Pologne jusqu'en Ibérie et depuis le nord de l'Europe jusqu'en Italie du Sud, ils vont dans les centres de stockage en Allemagne. Pour moi, c'est, je dois vous dire, je suis horrifié de la façon comme les États et l'Union européenne a ouvert cette porte, disons, de stockage en profondeur pour ce type de déchets.
Le tribunal administratif de Strasbourg se prononcera d'ici la fin de l'année sur la nouvelle demande d'autorisation de confinement des déchets déposés par les anciennes mines de potasse d'Alsace. Stocamine soulève aussi la question du principe pollueur-payeur. Ce principe est inscrit dans la charte de l'environnement en France, mais il est difficile à appliquer car le droit français ne définit pas clairement si c'est le détenteur ou le producteur du déchet qui est responsable. Et pour compliquer encore le dossier, Stocamine a été géré par une entreprise privée, mais est aujourd'hui géré par les mines de potasse d'Alsace à capitaux 100% publics.
Un reportage de Angélique Ferrat réalisé par François Porcheron. Jackie Bonnemain, je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de l'association Robin des Bois qui se mobilise depuis près de 40 ans contre la pollution. Alors ces deux histoires, Stocamine et Bonfol, sont intéressantes à mettre en parallèle car ce sont deux stratégies différentes. D'un côté, l'État français décide de stocker les déchets dangereux et de l'autre, l'État suisse nettoie.
Alors c'est deux conceptions différentes mais c'est aussi deux situations différentes. La carrière de Bonfol est en quelque sorte été une décharge terrestre. La carrière avait cripatouillé la terre jusqu'à 30 mètres, 40 mètres de profondeur. Et après, la chimie suisse est venue combler tout ça, comme on l'a entendu. Tandis que Stocamine, c'est vraiment un stockage volontaire en profondeur, à 550 mètres de profondeur. C'est donc deux problèmes de gestion différents. Si on veut assainir Stocamine après l'incendie de 2002, ça sera plus difficile techniquement que d'avoir excavé les déchets chimiques de Bonfol, qui, comme ça a été dit, ont été envoyés en Allemagne quand même, hein, dans des mines de sel, non pas dans le bassin du Rhin, mais plutôt dans le bassin du Danube, à l'est de l'Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. En France, Stocamine est évidemment un gros problème et nous souhaitons, comme tous nos collègues et comme l'opinion publique alsacienne et comme Extinction Rebellion, qu'un maximum de déchets soit repris pour que la parole de l'État soit respectée et Évidemment, il faut que ce soit fait en toute sécurité. On ne tient pas à être responsable d'un accident de mine dans les galeries au moment de la récupération. Mais sous réserve que la sécurité soit respectée pour les travailleurs, il faut en enlever le maximum et si possible tout.
Oui, mais l'État argumente du fait que c'est trop cher.
Oui, mais les enveloppes budgétaires, elles sont toujours réduites, sauf quand il faut maintenir artificiellement, l'économie de tous les cafés, de tous les restaurants, alors que les restaurants et les cafés sont fermés. Par contre, les enveloppes budgétaires destinées à l'assainissement, à la mise en sécurité des sites pollués, que ce soit accidentellement ou d'une manière chronique, par négligence sur le long terme, les enveloppes budgétaires, elles sont toujours insuffisantes et elles ne peuvent pas être augmentées. Il faut dépenser plus d'argent sur Stocamine. Et nous pensons qu'en plus, il n'y a pas de récupération des déchets. Comme c'était dit dans l'arrêté d'autorisation de 1997, ça met en cause la parole de l'État et ça enlève le peu de crédibilité qu'il reste au projet de Cigéo, qui lui aussi est un stockage géologique volontaire à 500 mètres de profondeur, qui serait dédié aux déchets radioactifs. Donc Stocamine et Cigéo sont un peu dans le même bateau.
Alors, sachant qu'en plus, en France, on est quand même un pays riche, donc on a des installations de stockage de déchets dangereux, on pourrait très bien retirer les déchets dangereux de Stocamine et les mettre dans ces installations.
Pour la plupart des déchets, effectivement, et en particulier les résidus d'incinération d'ordures ménagères, que l'Est de la France envoyait allègrement dans des mines de sel en Allemagne. À partir du moment où Stocamine est ouvert, ils ont changé parce que ça leur coûtait moins cher que d'envoyer leurs résidus en Allemagne. Donc ces déchets-là, effectivement, qui sont chargés en métaux lourds, peuvent être stockés dans des centres de stockage de classe 1, après un inertage avec du béton. L'arsenic et le cyanure et le mercure sont plus compliqués à gérer. On souffre en France non seulement d'un sous-dimensionnement des installations d'élimination, de stockage, de valorisation des déchets, mais aussi d'un sous-dimensionnement des techniques. Et je redoute que pour certains déchets retirés et remontés de la mine accidentée de Stocamine, il n'y ait pas d'autres exutoires que des mines de sel en grande profondeur dans l'est de l'Allemagne. Pour ce qui concerne les décharges de surface comme celle ou de semi-surface comme celle de Bonfol en Suisse, en France, pour des raisons toujours d'enveloppe budgétaire, on est plus sur l'encapsulation de ces monstres dont on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on les recouvre d'argile, on va un peu dessous pour renforcer les étanchéités avec de l'argile et des films de polyane qui vont durer juste quelques dizaines d'années. Bref, on encapsule, on recouvre, on anonymise, si je puis dire, et puis on recueille année après année, à grands frais d'ailleurs, des eaux de percolation, des lixiviats, des égouttages, quoi, qui sont toxiques, et on les envoie à grands frais. Hein. On les envoie dans une usine d'incinération de déchets dangereux. À Montchanin, par exemple, je dis bien à Montchanin, en Saône-et-Loire, ce petit jeu, ça dure depuis maintenant 30-35 ans et il est prévu que ça dure pendant encore une bonne centaine d'années. En Alsace encore, on a des résidus de lindane, c'est plus que des résidus, c'est du lindane qui a été invendu.
C'est quoi du lindane ?
Le lindane, c'est un insecticide dérivé du DDT qui était un tutou en matière d'insectes, donc qui a été très utilisé par tous les agriculteurs européens et aussi dans le monde entier, qui a été interdit de fabrication il y a une bonne quarantaine d'années, mais dont l'empreinte continue à être observée dans les cours d'eau et dans d'autres matrices.
Alors, heureusement, la législation évolue. Elle évolue aussi à l'échelle internationale, d'ailleurs. Mais est-elle réellement appliquée? Nous en parlons après une plongée dans le quotidien d'un mineur américain des années 50, Sixteen Tones, par le grand Tennessee Ernie Ford, dans Ses pas du vent.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Tennessee Ernie Ford dans Ses pas du vent sur RFI. Si vous voulez comprendre dans quel monde nous vivons, vous écoutez la bonne émission. Nous parlons de la gestion de nos déchets aujourd'hui et plus particulièrement des déchets dangereux qui contiennent des substances toxiques. Jackie Bonnemain, je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de l'association Robin des Bois qui se bat depuis près de 40 ans contre les pollutions en tout genre. Alors la mondialisation a amplifié la circulation de ces déchets dangereux.
Vous savez, sur les navires de commerce, il y a trois marchandises principales. Les biens de consommation, les numériques, les mobiliers, les chaises, enfin tout ce qui nous entoure ainsi dans nos foyers domestiques ou sur nos lieux de travail en Europe et qui vient en général d'Asie. Et puis, il y a des armes aussi, et puis il y a aussi des matières dangereuses. Et une grande partie est constituée de déchets. Les déchets circulent. Sauf que, grâce aux efforts des écologistes pionniers, il y a une convention sur le transfert transfrontalier de déchets qui est entrée en vigueur vers les années 80-90 et qui a un rôle de frein quand même.
Oui, donc c'est la Convention de Bâle qui a été ratifiée par 164 pays, mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée?
Alors, il faut arrêter de dénigrer systématiquement toutes les conventions internationales. Si elle n'était pas là, ça serait bien pire. Mais la Convention de Bâle a des mailles très très larges par lesquelles les producteurs des déchets s'infiltrent assez régulièrement après avoir compris toutes les astuces possibles. Et il y en a plusieurs. En particulier, le fait que la Convention de Bâle classe les déchets par hiérarchie et considère à l'heure actuelle que toute l'électronique chargée de métaux lourds, d'arsenic, de composés organiques volatiles n'est pas un déchet dangereux de première catégorie, ce qui alimente, ça nous préoccupe beaucoup, des décharges sauvages en Afrique. Et puis, il y a aussi le fait que la Convention de Bâle oblige le pays d'exportation à expliquer qu'il n'a pas chez lui les moyens de traiter un déchet dangereux et le pays d'importation a prouvé que lui dispose d'un moyen technique conforme à une bonne élimination de ces déchets. Et c'est là qu'il y a des problèmes parce que l'Allemagne qui reçoit dans ses mines de sel des centaines de milliers de tonnes de déchets depuis le monde entier et en particulier depuis tous les pays de l'Union européenne considère que les mines de sel sont un moyen sûr, rationnel, efficace de stockage des déchets dangereux, alors qu'on sait très bien qu'à terme, à long terme, il y aura des risques, en particulier pour les eaux souterraines. Donc, la Convention de Bâle, finalement, elle n'est pas très exigeante sur la qualité du moyen de valorisation, d'élimination, de stockage du déchet dangereux qui est importé. Mais il faut savoir que la France importe régulièrement, dans le cadre de la Convention de Bâle, des déchets, des pesticides, genre lindane, si on peut dire, qui viennent de Mauritanie, qui venaient de Syrie, qui venaient d'autres pays africains, qui venaient d'Ukraine aussi. Et le problème avec ces déchets, qui sont des déchets quasiment humanitaires, parce qu'effectivement, au moment où ils ont été importés, ces pays n'avaient pas les moyens de les traiter. Le problème, c'est qu'ils sont très mal caractérisés. Ils nous disent que sur les certificats que ça contient, je dis n'importe quoi, 3 grammes d'arsenic par kilo, et en fait, il y en a 30 à 300. Et donc, les importateurs français se trouvent parfois confrontés à de très gros problèmes. C'est là aussi l'un des défauts de la Convention de Bâle qui n'est pas assez rigoureuse sur les certificats de caractérisation des déchets.
Alors sur le site de votre association, il est écrit que vous vous êtes fixé comme priorité la prévention et la gestion des déchets issus de catastrophes naturelles et industrielles auxquelles le XXIe siècle offre des perspectives dévastatrices. Quand on vous écoute, on se dit qu'en fait, on ne sait absolument pas gérer ces déchets dangereux. On fait un peu ce qu'on peut, mais on a globalement tendance à les mettre sous le tapis, quoi.
Oui, on les met sous le tapis, mais il y a quand même une traçabilité qui est en train de s'organiser, qui a ses failles, hein, on est bien d'accord, hein, parce qu'il y a des contrebandiers dans tous les milieux, hein, y a des contrebandiers d'ivoire et puis il y a des contrebandiers de déchets, mais il y a quand même, la tendance est à la traçabilité, ça c'est une bonne chose. Par contre, les innovations en matière de traitement des déchets dangereux qui ne sont pas forcément valorisables sont insuffisantes. On est cantonné à l'heure actuelle à l'incinération, certes développée dans des fours qui montent à 1200 degrés pour détruire les molécules à l'intérieur du four, enfin théoriquement, ça fait des résidus dangereux qui ne doivent pas être mis n'importe où. C'est une solution intermédiaire, mais on est en attente, effectivement, de la part des milieux scientifiques, de nouvelles solutions moins polluantes pour l'environnement.
Merci beaucoup, Jackie Bonnemain, d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.